Donc je suis consolate. J'ai été adoptée à l'âge de 7 ans du Burundi. Et 26 ans plus tard, je décide de retourner dans mon pays natal. Et dans le cadre de la préparation de ce retour, je rencontre aujourd'hui Madame Sophie Beuys, qui est psychologue et spécialisée dans la mémoire traumatique. Mais je vous invite à vous présenter pour qu'on comprenne bien pourquoi je vous sollicite aujourd'hui.
Oui, alors en tant que psychologue, psychothérapeute, je me suis aussi orientée vers les traumatismes et les questions des pertes, des deuils, des séparations, du vécu de l'enfant éloigné de son parent. Et c'est peut-être comme ça que Consolate est arrivée jusqu'à moi. J'ai aussi une formation de sexologue et de thérapeute de couple et des familles avec voilà, un intérêt pour ces questions-là et en même temps tout un travail aussi de publication et de romans sur les sujets qui m'intéressent.
Merci. Pour ma première question, elle est peut-être un peu globale et on pourra détailler durant la conversation. C'est ma première question vraiment qui m'anime, c'est comment l'annulation d'une part de l'identité de l'enfant adopté agit sur sa construction.
Alors, l'annulation, elle vient de ce qu'on lui a raconté d'elle aussi. Parce que l'enfant, lui, de lui-même, il est entier, on va dire. Il est entier et il reste entier. Mais s'il est perçu comme venant d'ailleurs, alors il a ce sentiment d'étrangeté lié au regard des autres sur lui. Donc un enfant noir, fatalement, qui arrive dans une école de blanc, même si ses parents disent « voilà, tu es notre fille ou tu es notre fils », il est vécu comme bizarre et nouveau par sa classe. Et là, c'est comme s'il n'avait pas quelque chose que les autres ont. Maintenant, les parents eux-mêmes peuvent avoir aussi cette impression que cet enfant-là n'est pas comme leur propre enfant biologique et a, ce qui est vrai, une histoire, un passé, qu'il n'arrive pas sans rien, sans bagage. Donc, on peut dire qu'il a quelque chose en moins, mais aussi on peut le voir comme il a quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Et c'est tout ça que l'enfant adopté doit comprendre. Qu'il a peut-être le ressenti qu'on lui a enlevé quelque chose, et dans sa quête, il va redécouvrir ce qui lui a été enlevé pour se le réapproprier, le faire sien, et pouvoir à ce moment-là aussi ne pas se sentir comme trop incomplet, trop arraché ou déraciné, ou trop différent des autres. Parce que justement, la différence, au lieu de se retourner contre, peut être aussi, évidemment, une différence dont il tirera sa force dans un second temps. Donc c'est construire au-dessus, parfois, de nos propres décombres, que l'on vienne de familles unies, désunies, de familles qui ont été séparées par la guerre ou par la mort, rebondir après des événements comme ceux-là, et savoir que ces enfants qui ont été confrontés alors à des épreuves de vie, eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ils peuvent aussi développer une sorte de créativité, de renouvellement, de transformation et de changement.
Parce que pour ma part, j'avais 7 ans et dès le départ, j'ai vu qu'autour de moi, il n'y avait aucune personne noire. Et du coup, j'étais persuadée que j'étais blanche. Et aussi, le fait que d'être persuadée d'être blanche, ben, je sentais que c'était comme ça que les gens allaient m'aimer et que comme ça qu'ils allaient me définir à l'intérieur de cet espace-là. Mais que je savais que j'étais noire, parce que dans le miroir, il y avait quelque chose qui me renvoyait ça. Mais aussi, je me dis, est-ce que c'est l'enfant lui-même qui se dit dans un système de survie, je vais être blanc et blanche, parce que ben, c'est la norme, sans que ce soit forcément les parents où l'école ou même les enfants renvoient une violence verbale ou dire... Enfin...
Oui, ça me rappelle une autre jeune fille africaine qui vivait au milieu des Blancs et qui disait « Je suis un mellow cake ». Donc le mellow cake, c'est celui qui est de chocolat noir dehors, mais à l'intérieur, il est blanc. Et ça, je pense que c'est parce que tout enfant veut ressembler aux autres enfants. Donc, chez les ados, c'est assez caractéristique. Il s'agit de s'habiller de la même manière, écouter de la même musique, etc. C'est une phase d'identification qui vient d'un processus de croissance où l'enfant doit imiter pour grandir. Il doit imiter ses parents, il doit répéter les mots que les parents disent. Et donc, ce qui nous structure, dans un premier temps, c'est répéter, répéter le même. Donc, il faut qu'on soit comme ce qu'on nous montre, un schéma. Et au fur et à mesure que la personnalité se construit, on aura envie, justement, de cultiver une différence. Donc, certaines filles voudront être plus originales que les autres, ou avoir quelque chose que les autres n'ont pas, ou connaître, je ne sais pas moi, certaines musiques ou certaines cultures que leurs copines n'ont pas, pour se mettre en valeur, ou devant les copains, etc. Et là, ce qui était de l'ordre de la différence et qu'on rejetait, après, la différence, quand on grandit, elle nous attire, elle nous rend curieux, et on a besoin aussi d'entretenir la différence. Mais ce qui peut créer des blessures, c'est le côté dépréciatif de, on va dire, du noir. Et l'expérience des petites filles noires à qui on montre les poupées blanches et les poupées noires, et qu'on dit laquelle tu veux, laquelle est la plus jolie, et vont choisir la blanche. Parce que toute notre société est construite dans un monde, on va dire, majoritairement blanc, qui prône la blonde, la blanche, etc. Je pense qu'il y a 4000 ans, c'était le contraire, c'est-à-dire c'était Nefertiti, c'était des reines noires qui étaient mises en valeur et pas blanches. Après, les choses peuvent changer et tourner.
Oui, d'où ça mène aussi, moi, un racisme qui est vraiment ancré en moi. Et qu'aujourd'hui, tout ce travail aussi me sert à être dans une déconstruction et à accepter aussi, en fait, de faire partie de cette minorité-là, en fait.
C'est, ouais. Et de la revendiquer, et de la mettre en valeur, au lieu de la cacher ou la camoufler, d'en faire, justement, sa propre beauté aussi, et d'attirer les regards sur ça aussi. C'est comment on se sent. Donc on peut être blanc et se sentir moche, et on peut être noir et aussi se percevoir belle, et c'est ce ressenti qui fait qu'on devient beau aux yeux des autres à partir de comment on se sent soi aussi.
Tout ce travail-là, quoi.
Oui, c'est très subjectif. C'est être bien dans sa peau, peu importe la taille, la couleur, la mince, grosse. Enfin, de toute façon, c'est culturel. Dans certaines cultures, il faut être bien en chair, et dans d'autres, il ne faut pas avoir un gramme. Donc, encore une fois, ces perceptions-là, elles peuvent changer du tout au tout.
Et est-ce que vous pensez que ce voyage de retour, retourner pour la première fois sur ma terre natale, où du coup je vais voir beaucoup de personnes qui en tout cas sont semblables à mon corps, à ce que je représente, peut-il résoudre le phénomène de dissociation de moi en tant qu'enfant adopté?
Ah, ça, je ne peux pas répondre à votre place.
Mais est-ce que ça peut aider dans ce processus de dissociation? Par exemple, je m'explique, c'est que pendant des années, j'étais blanche et pas noire, mais qu'en même temps, il y avait quelque chose qui savait... Enfin voilà, cette part d'identité africaine n'existait plus. Mais que l'extérieur me renvoyait quand même que j'étais noire. Et que pendant tout un temps, je parlais en « Ah, consolate !» « Ah, elle fait ça, elle fait ça !» Et que je sais que c'est pas du tout... C'était quelque chose que c'était pas moi qui avait mis en place, ça. Et du coup, je sais que ce voyage, pour moi, il est devenu une nécessité et un besoin, parce que je sens que je suis trop éparpillée et que j'ai l'impression que faire ce retour, c'est vraiment être une personne à part entière et sans être dans un arrachement de dissociation,
oui.
De prise de conscience.
Ça va certainement apporter énormément et vous faire beaucoup de bien aussi, mais il ne faut pas non plus avoir trop d'attentes. C'est-à-dire que un Italien, par exemple, qui quittait l'Italie pour vivre 30 ans, 40 ans, ou un Marocain de seconde génération qui naît ici, quand il retourne au pays, il est un étranger pour les Italiens ou pour les Marocains. Il reste un Belge, vous voyez. Mm. Il y a quelque chose qui fait que ça l'a imprégné.
Mm.
Donc, eux, ils vont s'intéresser à vous en tant que Belge, en tant que quelqu'un qui vit en Europe. Et ils vont vous voir aussi comme la Burundaise belge. Donc il ne faut pas renier qu'il y aura toujours les deux à l'intérieur de vous.
Mm.
Mais que vous allez avec une idée d'ouverture pour vous remplir de leur culture.
Mm.
Et pour ramener ça à l'intérieur de vous et puis le ramener en Belgique. Mais aussi dans l'idée de vous ouvrir pour qu'eux puissent aussi voir tout le bon que vous avez d'ici. C'est-à-dire, ni rejeter ce qui est de belgo-belge, ni idéaliser trop l'Africain, mais de vous sentir comme quelqu'un qui aura une sorte de métissage et de richesse des deux. Non, la partie perdue, je la retrouve, et qu'effectivement, il va y avoir probablement des processus inconscients ou transgénérationnels ou archaïques qui vont se réveiller, et ça va être, non pas en une fois, mais sur tout le restant de votre vie, que ça s'élabore, ça se construit et ça s'alimente, surtout si après il y a une possibilité ou d'aller plus régulièrement ou de faire un travail qui est de connexion entre les deux. Mais de là à dire que vous avez tout quitté ici pour aller vivre là-bas, dans une hutte du Burundi, ça, à mon avis, ce serait un peu risqué, quoi.
Mm.
Sauf projet humanitaire ou quelque chose comme ça, une autre idée où votre capital, on va dire, culturel d'ici peut transmettre quelque chose comme ceux qui veulent faire de l'enseignement ou des ateliers et que, je donne, il me donne.
Mm.
Mais les trous de votre histoire... probablement que en connaître sur votre famille, il va y avoir des gens qui vont vous parler de votre famille, il va y avoir la sœur, etc., qui vont vous raconter des choses, et ça va être essentiel aussi. Ça va être essentiel, mais ça ne va pas raconter tout, parce qu'en fait, il y a une part d'oubli, et il y a une part, de toute façon, de ce qui est perdu et qu'on ne reconstruit malheureusement pas. Donc vous allez, comme quand on va à Rome et qu'on découvre des ruines merveilleuses, et qu'on s'émerveille de cette proximité entre la vieille ville, la mémoire, mais dont il reste quelques pierres, si vous voulez, ou quelques mosaïques, ou des sculptures magnifiques, etc., et de se dire, je vais faire quelque chose de tout ça, mais je n'aurai jamais, je ne peux pas retourner dans le temple comme il était il y a 2000 ans.
Mmh. Mais ce qui me réjouit un petit peu en vous entendant, c'est que vous avez dit le mot « remplir
mmh. »,
parce que je rencontre plus maintenant, dans ma démarche en tout cas, je rencontre plusieurs adoptés et tout ça, et c'est sûr que il y a un endroit où je me sens plus seule dans des mots, par exemple. Moi, c'est, je sens toujours un trou, du vide, et que voilà, j'ai l'impression que toute ma vie j'essaye de combler un vide qui ne sera jamais que j'arrive pas à le remplir, et que du coup vous me dites que ça me donne de l'espoir, et c'est tout l'intérêt de la préparation aussi de ce retour, c'est d'entendre qu'il y a une possibilité de remplir. Et je crois que c'est ça aussi qui fait que j'ai besoin, cette nécessité d'aller dans cette source-là pour peut-être remplir quelque chose que je connaissais ou que je connais plus, mais quelque chose qui peut-être m'appartient en quelque sorte. Voilà, c'est le mot remplir qui me touche, parce que...
Oui, mais il y a de fortes chances aussi que le grand vide originel qui est là, c'est aussi la perte des parents. Et que ça, c'est le plus grand manque. Et que quand on est adopté, si on ne peut pas retrouver papa et maman, s'ils sont morts, il y a une part de vide qui restera toujours du fait qu'ils sont disparus. Mmh. Donc vous allez trouver d'autres personnes, mais qui au départ, même si vous savez que c'est votre sœur, ça va être une étrangère au début. Il va falloir créer la relation avec elle. C'est pas, ça va pas être du premier coup, parce que vous devez vous apprivoiser l'une l'autre. Et mais comme ça s'est passé à 6-7 ans, il y a déjà quelque chose dont elle se souvient aussi, et peut-être vous aussi, d'un socle, d'une base. Une base d'amour qui disparaît jamais. Comme ce que vous avez pu recevoir des parents aussi, à la base, ne disparaît pas. Si eux sont plus là aujourd'hui, mais ce qu'ils ont donné, on ne peut pas vous le retirer, vous voyez. Et ça a peut-être fait aussi ce que vous êtes aujourd'hui et qui vous a permis aussi de batailler sur ce front, d'être adopté sans être, on va dire, un enfant qui aurait été abandonné et non aimé, vous voyez. C'est-à-dire, il y a des enfants qui n'ont pas eu ces 6 années d'amour, de soutien, de protection, et qui ont beaucoup plus dur dans la vie aussi. Parce que, voilà, ça, on dit que tout se joue avant 6 ans, et c'est vrai que ces 6 premières années sont essentielles aussi à former déjà un petit être, on va dire, harmonisé, quoi. Et entre je dois compléter des manques, les manques, ils sont certainement très grands, ils sont aussi liés au fait que les parents adoptifs avaient leurs propres carences aussi, et qu'ils n'ont pas pu combler certains manques. Peut-être qu'ils ont renforcé certains manques aussi, et qu'aujourd'hui, voilà, c'est aller à la recherche de qui vous êtes et de ce que vous avez envie de mettre à l'intérieur de vous, de tout ça aussi. Si on vous dit, ben voilà, tu vas aller manger des chenilles, vous n'aurez peut-être pas envie de manger des chenilles, vous voyez. Et puis peut-être que vous aurez envie de découvrir les baobabs, les lémuriens, j'en sais rien, moi. Enfin, tout ce qui sera de ce pays-là aussi, dans sa beauté, sa richesse, et ses 1000 possibilités, quoi.
Moi, quand j'ai été adoptée à cet âge-là, on ne m'a pas expliqué en fait ce qui se passait. Bon, après c'est un contexte, mais de toutes les manières, on t'impose une nouvelle vie et des nouvelles personnes où tu es obligée. Pour ma part, j'étais obligée à nommer ces gens papa et maman.
C'est ça.
Du coup, moi, il y a aussi une question que je me pose, mais bon, c'était jusqu'où on est prêt aussi à imposer un enfant adopté avec un certain âge à dire c'est maintenant, c'est aujourd'hui, moi ton père, moi ta mère, et voilà. Mais je me dis que c'est aussi une question de comment on prend l'enfant avec son bagage, quel que soit son âge. Mais du coup, ma question amène à comment aussi on reconnaît le traumatisme qui est lié à l'adoption.
Mais apparemment aussi, ici, ce qui est particulier, c'est que ça s'est construit autour d'un mensonge, de quelque chose de faux. C'est-à-dire, on a menti à votre famille, on a menti aux parents adoptifs, et on vous a menti à vous. C'est-à-dire, quand ces parents-là disent « je suis ton papa et ta maman », fatalement, vous, à 6 ans, vous avez déjà toute votre tête pour dire « mais non, t'es pas papa, t'es pas maman. Toi, t'es blanc, je te connais pas, t'es pas mon papa, t'es pas ma maman. » Déjà ça. Donc, si ça s'était passé, j'étais pas là, et peut-être que pour vous, c'est plus difficile aussi de remonter jusque-là. S'ils avaient utilisé d'autres mots pour dire « voilà, ça va pas être facile, tu nous connais pas, c'est un pays, il fait froid, on est tous blancs, on a des cheveux lisses, mon Dieu, ça doit te faire peur, et comme c'est difficile pour toi, on va y aller tout doucement, tu n'es pas obligé de nous appeler papa et maman comme ça, tu nous appelles comme tu veux, ça, voilà, vous voyez, c'est comment aussi on prépare des parents adoptants à rentrer dans ce rôle, et pas, boum, maintenant, tu es notre fille, je suis ton père et ta mère, quoi. Ça doit être très lent, très progressif, et là aussi, on doit s'apprivoiser, quoi. Donc, l'enfant, il garde cette empreinte-là toute sa vie, je crois, quelque part. D'un moment où la famille était là et puis on a tout perdu. Et il garde une appréhension que est-ce que je dois faire confiance ou pas à ceux avec qui je suis, avec mes collègues de travail, avec mon partenaire, est-ce que je peux compter sur eux ou est-ce qu'à tout moment on va me balancer ou je vais me retrouver ailleurs?
Ah oui, mais ça, vous avez raison, c'est quelque chose que je ressens dans tous les contextes, quoi. Cet abandon, ce manque de confiance, et à tout moment, par exemple, j'ai à chaque fois des petites choses, comme si j'étais prête à partir. Comme si que je pouvais tout mettre dans un sac à dos. C'est bizarre.
Les bagages sont prêts. Oui, presque.
Ben oui. J'ai remarqué ça il y a peu de temps, mais que comme si que j'étais prête à tout moment de partir. Mais est-ce que peut-être aussi que ce cadre sécurisant et tout ça n'a pas été en ma faveur? Soit. Mais aussi, en fait, le fait que je veux rendre visible, en tout cas, le sujet de l'adoption. Ici, en Belgique, en tout cas, je trouve que c'est un non-sujet. Voilà, j'ai jamais vu des choses où en parler. La preuve, c'est que tous les adoptés que je rencontre me disent merci, parce qu'en fait, ça va nous sortir de la solitude, ne serait-ce que de se rencontrer et se reconnaître, en fait. Et est-ce que vous pouvez affirmer que l'adoption, ça reste quand même un endroit traumatisant et un acte traumatisant, sans dire que c'est bien ou pas bien, mais c'est une action qui arrache une personne, quel que soit son âge, d'un autre milieu. Enfin, peut-être que je me pars un petit peu, mais est-ce qu'on peut affirmer qu'une adoption, dans tous les cas, ça reste quelque chose de traumatisant pour un enfant?
Oui, je pense que ça... C'est violent, quoi, de perdre ses proches, d'être séparé, d'être éloigné, d'être... Voilà, pour certains enfants qu'on aurait déposé quelque part dans un orphelinat, etc., bien sûr que... on a l'impression de ne plus avoir personne sur qui compter. Et toute histoire d'adoption est compliquée. Est compliquée et peut se passer bien parfois les premières années et puis basculer à l'adolescence, comme c'est souvent le cas. Donc c'est une sorte de bataille entre l'adopté et les adoptants. Il y a souvent une guerre qui se crée à ce moment-là. C'est ce que Boris Cyrulnik dit, vous adoptez, sachez que vous partez en guerre, parce que l'enfant va peut-être être tellement infernal pour voir si vous allez le rejeter de nouveau. Et donc il faut tenir bon. Tout parent n'imagine pas que ça peut mal tourner à un moment donné. Mal tourner au sens où c'est inconscient chez l'enfant de... déjà à l'adolescence, on est un en général assez rebelle contre ses parents, mais vous multipliez ça par deux, voire par trois, avec un enfant adopté qui, évidemment, dira immédiatement à sa famille « T'es pas mon père, t'es pas ma mère, t'as rien à me dire, je veux sortir, je veux faire la fête. » Et ça, évidemment, ça suscite de l'incompréhension de part et d'autre et trop peu de soutien de la part des professionnels à ce moment-là, quoi, aussi.
Mais pourquoi je ressens un déni par rapport à la parole de ces adoptés, en fait? Pourquoi on n'accepte pas que...
Quoi, qu'on les écoute pas?
Bah oui, oui, cette écoute-là de dire, ok, ben en fait... parce que sinon, moi, je ressens toujours ça, une part de redevabilité, de cette deuxième chance, de dire, ben, en fait, je devais mourir, et puis même...
Oui, ou qu'il leur faudrait les remercier, quoi.
Ben, moi, j'ai toujours eu la sensation que je devais dire merci d'être là. Et que du coup, qu'est-ce que tu peux faire avec ça, en fait? C'est... Ben, dire merci, et que ça te renvoie à cette solitude donc profonde, parce qu'en plus, on va pas en parler, et c'est un non-sujet, et que c'est ça aussi qu'entre adoptés, on se reconnaît même pas. Si on n'est pas là-dedans, mais pourquoi en fait on... Je crois que ça aiderait les professionnels de ça, les parents, s'il y avait cette parole qui était visibilisée ou nous laisser nous exprimer là-dessus. Mmh. C'est pas pour dire que les parents sont mauvais ou tout ça, mais c'est dire ben, y a quelque chose en moi qui existe et qui doit sortir. Quand on voit le taux de pourcentage de personnes adoptées qui sont en autodestruction, se suicident, c'est...
Oui, oui, mal, très mal dans leur peau. Et,
oui.
Oui, c'est-à-dire que, y a, comme vous dites, cette sensation d'être redevable et qu'on vous fait peser, enfin, que le parent attend d'être vécu comme le sauveur, cette image de la bonne famille catholique ou de ceux qui vont aller chercher le petit Africain en Afrique et le sauver de la misère.
Oui.
Donc... c'est inhérent à celui qui va tirer du ruisseau quelqu'un, ça met l'autre en dette, vous voyez. Et donc, ça peut créer aussi de la rancune envers le bienfaiteur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on lui en veut. On est redevable, mais on lui en veut. Donc, il y a ce mouvement de voilà, attraction-répulsion qui se fait, de rejet. Mmh. Et la famille, si tout à coup... elle est face à ce rejet, eh ben, leur ego, ou sur le plan, on va dire, purement narcissique, un enfant qui vous rejette, ça va très vite devenir insupportable. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va le rejeter. Donc, ils ne sont pas parfaits. Aucun parent n'est parfait. Déjà, avec leurs propres enfants, c'est déjà pas facile. Mais alors, avec l'enfant de l'autre, on le sait, avec les familles recomposées aussi, que, ah oui, vous épousez madame ou monsieur, il en a déjà d'autres. Et en fait, pour les aimer ou pour les supporter, quand c'est pas les vôtres, ben, bonne chance, quoi. C'est très compliqué que les enfants s'entendent entre eux, que la belle-mère les supporte, etc. Même si un des parents est décédé. Donc quand vous arrivez, d'ailleurs, tous les contes de fées, c'est ça. C'est des belles-mères épouvantables parce qu'il y a la mère, généralement, qui est morte et que Cendrillon ou Blanche-Neige se retrouve avec une méchante marâtre qui veut la tuer. Donc, entre la marâtre qui veut tuer Blanche-Neige ou Cendrillon, ben, l'enfant de famille recomposée ou l'enfant que l'on va chercher dans son pays ou qui débarque à l'aéroport, ben, l'amour ne tombe pas du ciel comme ça. Hein.
Mmh. On parle du coup de la nécessité de la rencontre, en fait.
Ben, la rencontre, oui, c'est tout un programme. C'est,
oui.
C'est lent, c'est long, c'est pas gagné, ça peut mal se passer. Et puis, il faut que les deux aiment de la même manière. Donc, si c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant et qui se rue sur cet enfant comme pour remplir son manque, son vide, ceci, cela, vous voyez, donc vous devenez l'objet de désir de la famille adoptante. Et puis, tous les petits blancs, frères et sœurs de famille biologique qui voient débarquer cet enfant d'un autre pays, ou asiatique ou noir, ils risquent d'en faire le souffre-douleur assez vite aussi, quoi. Donc, c'est pas gagné qu'ils ne se liguent pas contre le petit dernier. Déjà, il y a une rivalité fraternelle pour le nouvel arrivant qui vous prend l'attention de maman, qui s'y qui là, pour peu qu'il pleure la nuit ou qu'il demande effectivement, lié aux angoisses et aux séparations, etc., va pas être facile à vivre les premiers temps. Et ça, voilà, ça peut faire péter des couples, ça peut... enclencher un certain nombre de choses, c'est pas facile, quoi. Mm-hmm. C'est pas facile du tout. Mm-hmm. Donc, est-ce que pour autant il ne faut plus adopter, il faut laisser ses familles, ses enfants dans leur famille ou leur pays d'origine, créer des structures là-bas qui sont comme des maisons, on va dire, où vivent tous les enfants orphelins? dans quelles conditions, surtout que il y a de plus en plus de pauvreté en Afrique, et donc il y en a certains qui, il y a certaines mères qui sont prêtes à envoyer leurs enfants pour qu'ils aillent mieux, à les donner, à les vendre même, pour qu'ils aient une vie qui ne meurent pas de faim. Si on est en Éthiopie, si on est au Yémen, et que vous en avez déjà 5 ou 6 que vous ne savez pas nourrir correctement, et qu'il y a des blancs qui vous disent « on va le placer dans une famille, et il va avoir à manger, il va scolariser ici et là », ben c'est un arrache-cœur pour la mère, mais qu'est-ce qu'elle va faire ?
Ben oui.
Et dans certaines familles africaines, que j'ai eues parfois en thérapie aussi, si une sœur voit que sa sœur n'a pas d'enfant, et qu'elle essaie d'avoir des enfants... Ben, elle donne un de ses enfants à sa sœur. Ça se fait. Donc cet enfant grandit et découvre après, une fois adulte, qu'il n'est pas l'enfant de cette mère et de ce père, mais qu'il est l'enfant de la tante, qui est sa mère véritable. Parfois on le dit, parfois on ne le dit pas. Ou parfois il grandit chez la grand-mère parce que la mère, elle en a trop. Donc il y a... Et ça, enfin, parfois, ça se passe très bien,
oui,
mais ça peut aussi se passer très mal.
Et le fait que ce soit hyper difficile pour moi de retourner pour la première fois au Burundi, j'ai d'abord fait une escale au Rwanda et maintenant je vais au Burundi, je me dis pourquoi c'est si compliqué ? Pourquoi c'est si compliqué ? Et quelle est la part aussi de responsabilité de la part des adoptants d'accueillir au mieux ce déracinement et d'accompagner au mieux l'enfant et pas qu'il attende 26 ans ou 30 ans ou peut-être jamais d'y retourner. Qu'est-ce qui fait que... Comment on se réconcilie avec cette part d'identité qu'on a dû enlever pour pouvoir se construire, mais comment ça peut être moins difficile de se la réapproprier?
Alors là, je dois vous renvoyer la question. Qu'est-ce qui est compliqué pour vous à l'idée d'aller là-bas ? Quelles sont vos craintes ? Quelles sont vos peurs ? Je ne peux pas répondre à votre place. Qu'est-ce qui est difficile ?
J'ai tellement dit que ça n'existait pas. J'ai tellement une image de ce pays à travers la guerre. J'ai tellement quelque chose qui fait que je connais plus rien. Et que ce qui me relie à ce pays, c'est juste une couleur de peau, en fait. Mais que je sais pas que si c'est juste ça, je ne crois pas. Mais que je pars dans quelque chose de tellement inconnu, mais en même temps hyper connu. Je le sais, parce que quand j'étais au Rwanda comme escale, c'est le pays jumeau, il y a eu un truc comme ça, où en sortant de l'avion, il y avait quelque chose de hyper familier. Les odeurs, la moiteur. Après, on m'a cuisiné un plat burundais. En fait, je vais... Bon, c'est pas exceptionnel. Il y avait comme si quelque chose que je connaissais.
Voilà.
Mais après, il y avait... comme ça, des gens qui me parlaient en Kinyarwanda et en Kirundi, ma langue, que j'ai quand même parlé jusqu'à mes 7 ans et demi, 8 ans. Et au bout de 10 jours, je suis restée 12 jours au Rwanda, et voyant des corps semblables, des gens qui venaient me parler en me disant plein de mots en Kirundi, il y avait quelque chose où je sentais qu'il fallait que je parte, en fait. Il fallait que je parte parce que je sentais que c'était la langue qui me renvoyait le plus que j'étais partie. Et que je crois que c'est me confronter à ça, en fait. C'est de me dire, t'es parti. T'es parti et tu n'as plus... Il n'y a plus rien de concret, sauf une mémoire sensorielle. Donc, j'ai peur, en fait. J'ai peur de rencontrer la consolata ou l'enfant. C'est aussi parce que je fais tout un travail pour sortir l'enfant qui est en moi, pour lui donner la main, et que je sens qu'en faisant ce travail, en vous rencontrant et tout ça, c'est aider au maximum de poser cet enfant à côté de moi et que c'est elle qui va me guider. Mais en tant qu'adulte, J'ai peur, j'ai l'impression...
Oui, mais vous avez peur parce que sans doute que l'enfant a vécu des peurs aussi là-bas, vous voyez. Il y a eu la guerre, il y a eu la faim, il y a eu partir la nuit. Donc, c'est la peur de retrouver aussi ces sensations-là, vous voyez, au travers de la voix, au travers de cris, au travers de pleurs.
Oui.
Bien sûr qu'il y a des choses refoulées d'une période pas facile. Ça a été apocalyptique. En quelques mois, ça a basculé dans ce pays. Donc, peut-être que vous êtes passé de 0 à 5 ans à une vie tranquille dans un petit village et qu'en une fois, tout le monde a commencé à se massacrer, qu'il fallait se cacher, que ça a été atroce, quoi. Enfin, je peux imaginer qu'un enfant... qui ne sait pas ce qui se passe, mais il sent la peur autour de lui, vous voyez, et de se cacher, ou j'en sais rien. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est que la guerre n'est pas finie non plus au Burundi, que ça reste dangereux, et qu'à la fois, il y a beaucoup d'attentes de retrouver et des choses agréables, et d'appréhension d'être connecté à quelque chose dont on ne veut pas se souvenir aussi. Donc oui. Le mélange entre « je veux me souvenir » et « je ne veux pas me souvenir », c'est comme les enfants qui ont été abusés, vous voyez. Donc, ils ont le souvenir d'une enfance merveilleuse, et puis tout à coup, un adulte ou quelqu'un, un curé ou un tonton, j'en sais rien, a commis des actes. Eh bien, ça vient polluer tout. Le bon est contaminé par le mauvais. Et donc, on a du mal à se souvenir de l'enfance parce qu'il y a eu effraction avec cet événement-là qui comme efface le bon aussi. C'est ça qui est difficile.
Et que, je suis d'accord.
Et que ça crée un mélange de... un peu, comment on dit, schizophrénique, de parts agréables et désagréables, quoi. Et qu'il va y avoir, sans doute... des ressentis, comme vous l'avez eu au Rwanda, de choses agréables et puis de choses insupportables ou désagréables. Il faut s'y attendre. Maintenant, comme dans ce que vous m'avez raconté, que c'est votre sœur qui vous a retrouvé aussi, qui vous a cherché, qui a aussi cette chose merveilleuse que le destin vous remet en contact et que, on va dire... cet amour a perduré à distance au point que maintenant, voilà, ces retrouvailles vont se faire, ça peut être réparateur aussi.
Mmh.
Ça peut, en quelque sorte, consoler et consolate, si je peux le dire.
Mais c'est vrai que maintenant que vous dites ça, j'ai peur parce que aussi, toute ma vie d'adopter, mais en fait, le Burundi m'a quand même jamais quittée, dans le sens que c'est impossible pour moi d'aller voir des feux d'artifice. Dès qu'il pleut ou dès qu'il y a une odeur d'humidité ou de forêt, c'est très compliqué pour moi de me balader dans la forêt.
Oui.
Mais oui, mais parce que c'était aussi l'endroit où il y a eu... Mm-hmm. Et où aussi on a fait la fuite avec Alice et où notre mère s'est fait tuer. Et donc j'ai vu la mort aussi dans la forêt. Et donc pour moi c'est vrai, on a erré des jours et des jours dans la forêt Cuitaba, elle me portait sur son dos, et du coup ce qui est merveilleux avec cette nouvelle mémoire, c'est qu'elle vient détailler la mémoire que j'ai toujours eue, et donc aussi la retrouver, c'est légitimer ce que j'ai toujours eu à l'intérieur de moi. Et le fait que là elle me donne des signes du fait, oui effectivement c'était dans la forêt, il pleuvait, elle a eu très peur pour moi parce que j'étais très très malade, on a été recueillis dans un camp, mais tout ça pour dire que même si je sais depuis très peu de temps où ça se trouve le Burundi sur une carte, ça ne m'a jamais quitté en fait, ça ne m'a jamais quitté dû aux éléments naturels, enfin voilà, mais que donc ce que vous dites c'est au Rwanda, je me suis remise dans une forêt primaire. J'ai fait une sorte de psychanalyse sur place, mais que j'avais besoin de faire ça avant d'aller au Burundi, par exemple.
Ce qui se passe avec quelqu'un qui se fait agresser dans le métro, on l'amène petit à petit à retourner dans le métro, vous voyez. Quelqu'un qui a failli se noyer dans l'eau, ou qui a assisté à une noyade dans l'eau, eh bien, on le replonge dans l'eau, petit à petit, pour qu'il se rende compte qu'on en survit, qu'on peut retourner dans la forêt, que ça peut être agréable, etc., et dépasser le traumatisme. Donc, c'est comme une désensibilisation, vous voyez. Donc, c'est comme on vous donne du venin de serpent en antidote parce que vous avez été piqué par un serpent. Et donc, on vous donne une microdose. Donc, on va vous injecter de la forêt humide, forêt swine, jusqu'à ce que ça ne soit plus. Vous voyez, comme on a eu un accident de voiture, on n'ose plus monter dans la voiture. Il faut remonter sur un vélo, il faut remonter sur une voiture après un accident. Il ne faut pas en rester là. Il faut recommencer. Et sinon, voilà, il y a un reste sur image, quoi. On est bloqué.
Pour ça que je me fais parfois des petites balades en journée ou au matin avec plein de gens.
Oui. Et que vous puissiez vous rendre compte que du désagréable, ça peut devenir agréable. C'est-à-dire que la première impression va être appréhension, et puis petit à petit, se rendre compte que, ben non, je suis bien, la nature est magnifique, j'entends les oiseaux, et de savoir que c'est autre chose à un autre moment aussi.
Mais vraiment, je crois que ma peur, si je peux, voilà, la dire plus précisément, c'est que je crois que il y a tellement eu arrêt sur image avec la guerre que du coup c'est la guerre pour moi. Et j'ai peur d'être à nouveau confrontée à ce que j'ai dans la tête et dans le corps depuis toujours. Et que pourquoi... En fait, ma question, c'est pourquoi j'arrive pas à dépasser ce moment-là, en fait. J'arrive pas à sortir de ça. Et que quand... Je vous disais, j'écoute Kat Janine, Gaël Faye, le chanteur, c'est des Burundais qui prônent un Burundi, et que c'est grâce à eux aussi qu'ils me donnent, grâce à leur chanson, à son roman Petit Pays et tout ça, une autre image. Mais moi, j'arrive pas à concevoir une autre image. Et donc, c'est dire, en fait, ce retour, pour moi, il est nécessaire pour aussi que je me construise d'autres souvenirs. Et c'est pour ça que le spectacle que je vais faire sera sur cette nouvelle mémoire-là. Parce qu'elle est, pour moi, c'est un cadeau, en fait, que je m'offre, de m'offrir une nouvelle mémoire. Parce qu'à 33 ans, je reste bloquée dans cette période-là.
Oui. C'est aussi dire, ceux qui sont restés, ils ont vu un autre Burundi après, vous voyez, qui a continué. Mais vous, vous êtes partis en laissant les morts là-bas, les peurs là-bas, etc. Bon. Ça n'a pas été une partie de plaisir ici aussi non plus, vous voyez, mais et donc c'est comme si tout était resté comme à 7 ans, et ça va, non, c'est plus la même guerre, c'est autre chose, c'est des milices, donc on peut y échapper, etc. Attention, ici il y a d'autres guerres qui sont moins visibles, mais qui sont tout aussi tenaces aussi, quoi, en Europe. Et il y a, voilà, il y a peut-être quelque chose de à regarder autrement du pays, et voir que ça vit, vous voyez. Mais de s'arrêter vraiment sur tout ça, sur les moments, un marché, la beauté des animaux, de la nature, du silence, du calme, et de superposer aux images atroces des images de paix, de bonté que vous allez trouver, quoi. Et vous devez aller à la recherche de ça aussi, vous voyez. Pas que de la violence. Maintenant, pour la petite fille qui a vécu l'arrachement, etc., il y a aussi à la tristesse, la colère, vous voyez, et la rage. Donc, on sait que les enfants qui sont dans des guerres sont les premiers à prendre les armes aussi, vous voyez.
Donc ce matin, j'écoutais à la radio, ça se passait, je ne sais plus, au Tigré ou dans quel pays, on disait, voilà, on devait apprendre à ses enfants de 8 ans à ne pas créer des milices armées dans les villes qui pillaient et qui dévalisaient. Mmh. Et ces enfants qui ont été livrés eux-mêmes, abandonnés, etc., pauvres, et qui étaient devenus des tueurs, quoi. Donc c'est bien connu que la guerre arme très tôt les enfants qui ont un esprit de... Ils sont prêts à tout, quoi. On leur a retiré leurs parents, ils n'ont pas d'état d'âme, quoi. Enfin, ceux-là, ils expliquaient qu'ils étaient drogués aussi, ces enfants-là aussi, pour aller voler et tout. Donc, qu'est-ce que je fais de ma rage et de ma violence, vous voyez ? Est-ce que je la dirige uniquement sur mes parents adoptifs, qui sont les royaux emmerdeurs par excellence, pour tout enfant adopté ? Ou bien est-ce que je rentre aussi dans cette souffrance de rage, d'injustice, d'arrachement, de perte, du cri de détresse, quoi. Mm. Et comment je peux aussi transformer cette colère en quelque chose, quoi. Mm. Et par les mots, par l'œuvre d'art, par... entrer en connexion avec ça et le transformer aussi. Mm. Mettre autre chose à la place de ça aussi. Mm.
Et je pars en juin 2023. Et est-ce que vous avez un conseil pratique à me proposer jusqu'au voyage qui pourrait, je sais pas, m'apporter ou m'aider à appréhender ou... Est-ce que vous auriez un conseil à me proposer ?
Tout ce que vous pourriez anticiper ou tout ce que je pourrais dire, peut-être que ça n'aura pas d'effet, vous voyez, et que quand vous arrivez là-bas, le compteur est à zéro, et donc on peut se préparer, mais on n'est jamais préparé, vous voyez, donc il y a aussi tout ce qui va être inattendu, effet de surprise, et savoir que, on croit que pour un voyage dans l'Himalaya, on a tout prévu, ou traverser le désert, on a tout prévu, mais il y aura toujours de l'inattendu aussi. Mm. Mais de savoir que c'est juste. Mon conseil est, dites-vous, tout ce qui arrivera de bon et de pas bon, tout est juste. Mm. Les expériences agréables et les expériences désagréables, vous allez pouvoir recevoir autant de l'un que de l'autre. Mais il faut savoir que ça arrive au bon moment pour vous et que c'est pas pour rien et que ça va avoir du sens, mais peut-être que vous ne le découvrirez qu'après coup aussi. Que tout ne sera pas révélation comme ça et qu'il ne faut pas trop en attendre non plus, que ça va cheminer, ça va décanter. Moi aussi, quand j'étais au Ghana, au Pérou, dans la jungle, etc., parfois c'est des mois après ou des années après que je peux encore comprendre ce qui m'a amené là-bas, ce que j'ai vécu là-bas, ce qui reste de cette expérience aussi là-bas. Tout n'est pas immédiatement absorbé, intégré, quoi. Et puis je pense aussi que ça, c'est pas un one shot, quoi. Dans mon cas, bien sûr, je n'ai pas besoin de retourner au Pérou ou au Ghana, mais dans votre cas, c'est très différent. C'est le premier des voyages.
Oui, moi j'espère.
Et après, ce sera comment je vais accueillir mes proches à Bruxelles aussi, vous voyez. Donc, dans un second temps, si eux me préparent mon arrivée, il est aussi légitime qu'ils viennent découvrir où vous vivez, votre bébé, votre compagnon, etc., etc. Y compris les parents adoptifs, quelque part.
Merci Sophie Boyce.
Voilà, voilà. De rien, quand c'est là.